disons qu'il y a beaucoup d'enjeux performance aux entretiens très peu aujourd'hui de la controverse concernant l'amiante, mais plutôt des enjeux liés à la préservation, conservation liés au paysage minier de la région. Et on voit un petit peu ici une vue du paysage. J'ai voulu situer le musée où on se trouve, qui fait face à un panorama minier. Il faut comprendre qu'on a un panorama minier sur une bande de 12 km de large par 48 km de long. On retrouve peut-être une cinquantaine d'anciennes mines. Il y a eu beaucoup de beaucoup d'exploitations minières. Puis, contrairement à l'Europe, le paysage a été entièrement livré ici aux promoteurs miniers. Donc, ils n'arrivaient pas en territoire urbain ou d'autres choses. Ils arrivaient vraiment dans un territoire, un no man's land. Et ça a permis un développement vraiment particulier, où la ville s'est adaptée à la mine jusqu'en... Il faut attendre aux années 70 avant de voir les premiers règlements d'urbanisme dans la région et que le contrôle du sol soit réservé uniquement, qu'il y ait des zones réservées pour l'exploitation minière versus l'habitat urbain, l'habitat commercial et tout ça. Le projet, en gros, consiste à réhabiliter un ancien quartier qui est aujourd'hui fantôme, qui a été déplacé en raison de l'exploitation minière. On voit ici les terrils plats qui s'avançaient jusqu'au 31 mars 2008, où il y a eu la fin de l'arrêt de l'exploitation de la dernière mine souterraine à Thetford Mines. On voit que les terrils s'avançaient de plus en plus dans l'ancienne zone urbaine. Et le projet consistait à aménager dans ce secteur-ci, où on retrouvait trois mines principales, la mine King Johnson et Beaver, un projet de parc minier pour donner l'accès non seulement aux gens de la ville, mais également aux touristes, l'accès à cet immense site minier-là qui pourrait être converti par l'industrie touristique. En gros, je vais vous présenter succinctement la mise en place du territoire, le rôle du musée, le paysage minier, les terrils, le fameux projet du centre-ville, le contexte, les enjeux du projet, les étapes proposées par le musée, puis le patrimoine à conserver. On voit que avant l'arrivée, c'est une photo qui est prise avant l'exploitation minière. On voit que c'était un no man's land, c'était vraiment pas habité. En arrière-plan, on remarque ici le lac Noir qui fait place aujourd'hui à une immense mine à ciel ouvert. Il faut dire que le territoire s'est développé à partir de 1876. C'est vraiment tout récent et depuis 132 ans, donc on exploite l'amiante. On voit ici comment, c'est une carte de 1886 qui nous permet de voir que rapidement, suite à la découverte de l'amiante, les meilleurs terrains ont été acquis par les promoteurs miniers qui ont pour nom les King, Murphy, Reed, Ward et tout ça, qui vont s'assurer le contrôle du sol, puis qui vont... cette carte-là permet de comprendre tout le développement actuel de la région de l'amiante, parce qu'il faut comprendre que ça s'est fait, le développement, par concession des baux amphithéotiques de 9, 50 ou 99 ans. C'est-à-dire que les promoteurs miniers se réservaient le droit en tout temps de pouvoir déplacer les mineurs de leur habitat si pour fin d'expansion minière. Et tout ça va marquer le développement du territoire jusqu'au milieu du 20e siècle, où ça va devenir conflictuel, où les vieux habitats miniers vont rentrer en conflit avec l'expansion minière. Ici, on voit rapidement l'exploitation, le développement minier, le peuplement, avec la, au niveau de la région de l'Amiante, c'était la première fois qu'on assiste à la naissance de villes et villages miniers au Québec. Puis on voit un petit peu l'évolution du nombre d'ouvriers dans les mines. On part vraiment une population zéro et qui rapidement va tripler. On voit ici quelques chiffres pour comprendre cette mise en place-là du territoire. Puis on voit que dès le début, c'est des terrils qui sont envahissants. On voit aussi que c'est un peu comme les walking cities à l'américaine où rapidement les mineurs s'établissent près de leur lieu de travail et vraiment on voit c'était très près des fosses et à mesure que les puits vont s'agrandir parce qu'il faut dire que ces exploitations à ciel ouvert en majorité sauf que par la suite certaines exploitations vont opérer de façon mixte, alors que d'autres vont être converties au souterrain. Puis ici, ça nous permet de voir encore une fois le développement de Thetford Mines. On voit la vieille ville qui était près de la mine. On voit qu'il y avait un quartier plus à l'arrière ici. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'accès à l'automobile, la ville va s'éloigner du centre-ville pour vers l'est et le nord. Ça va donner de nouveaux quartiers, un nouveau développement, parce que vers l'ouest, c'est la bande minière, c'est vraiment une zone d'exploitation réservée aux mines. Puis je vous parlais tout à l'heure de l'expansion minière, les bouleversements urbains que cela a occasionné. En 1953-1973, on assiste au grand déménagement où une partie de la ville va être coupée en deux. On avait un ancien quartier ici, Mitchell, qui était relié avec l'ancien quartier Saint-Maurice. Ce quartier-là, donc on va commencer à faire un premier déménagement. Dans les années 50, on va détourner des chemins de fer, des routes nationales. Donc, la ville va perdre son lien ici, son accès direct à l'autre quartier. Ce quartier-là ne sera jamais déménagé, juste une petite partie, alors que le quartier de deuxième déménagement dans les années 65 à 73, c'est 410 maisons unifamiliales qui vont être déménagées alors que les infrastructures dont l'église de la paroisse vont être détruites. Puis vous voyez un peu le spectacle dans les années 70, le déménagement des maisons sur les terrils plats pour les emmener dans un autre secteur de la ville. Puis ici, je voulais vous parler d'un rendez-vous manqué au niveau sauvegarde du patrimoine. C'est la fameuse rue Smith qui faisait l'objet de cartes postales que les touristes aimaient bien photographier. C'est une rue qui était enclavée entre deux terrils et donc c'est une rue qui faisait pas trop une bonne publicité à la région alors qu'on commençait tout juste dans les années 70 à parler davantage des maladies industrielles associées à l'amiante. Donc, c'est une rue qui nuisait un peu à l'image de la ville. Vous allez voir la prochaine séquence. Vous voyez les maisons ici. Donc, aujourd'hui, il y avait eu un projet d'éco-musée où on aurait pu faire l'interprétation de l'habitat minier, parce que c'était une rue typique des débuts de la ville et qui était vraiment enclavée entre deux terrils. Deux terrils ici qui sont pas noirs, mais gris. Donc, juste pour rappeler le rôle du musée, on est dans un... Malheureusement, on n'est pas sur un... C'est pas un musée de site parce que à l'époque, à cause des exploitations minières encore il n'y avait pas place pour un musée sur le site minier. C'est seulement depuis peu qu'on parle de restaurer le patrimoine au centre-ville. C'est la fin, finalement, des exploitations minières qui permet de penser à sauvegarder cet héritage. Puis on rappelle que le musée, c'est un musée de sciences de la Terre, mais qui est également au service de sa communauté. On a, au niveau du musée, on explique beaucoup l'histoire du travail, l'histoire, l'évolution des conditions de travail, les grandes luttes qui ont marqué cette communauté-là et un peu l'évolution technique dans les mines. Par contre, on a, évidemment, chez nous, le paysage minier est omniprésent. On le voit, c'est ce qui fait face au musée actuel. On voit les terrils gris. Ici, c'est une tentative de végétaliser les terrils à partir de boues d'épuration. Malheureusement, c'est pas... il y a eu un peu une controverse là-dessus. Beaucoup de gens tiennent à leur terril gris. Chez nous, on appelle ça des dompes parce qu'on utilise beaucoup d'anglicisme. Et dans les mines d'amiante, c'était propriété de capitaux britanniques ou anglophones. Donc, on a le langage dans les mines était d'abord l'anglais. Puis il faut dire qu'il y a tellement de terrils chez nous, ça serait impossible de végétaliser l'ensemble, plus ceux qui sont trop pentus, ça serait impossible que la végétation tienne sur quoi que ce soit. Puis ici, en milieu urbain, ça non plus, c'est pas une photo qu'on projette de Thetford Mines, mais il y a certains quartiers qui sont vraiment encore où les terrils sont omniprésents. Puis ici, on voit un autre paysage minier vers Black Lake, à l'ouest de Thetford Mines. On voit vers Thetford Mines, c'est toute la zone qui est réservée à l'exploitation minière. Donc, c'est vraiment réservé que ce soit non seulement pour de l'amiante, mais d'autres ressources. Ici, Black Lake, c'est un peu une ville qui est accrochée à la mine. Puis on voit un des nombreux, la fosse qui est abandonnée, qui s'est remplie. Il faut dire que chez nous, le paysage est marqué de cratères, de terrils et un peu de lacs artificiels, de lacs qui se sont remplis. Puis l'eau est souvent un peu comme dans la mer des Caraïbes. Ça donne un beau vieux à cause de la présence du manganèse. Mais par contre, comme mon collègue disait tout à l'heure, il est très dangereux de s'y baigner à cause de l'instabilité des pentes, plus le phénomène d'aspiration. On a des noyades dans les puits à chaque été. Par contre, certains puits sont utilisés aujourd'hui pour la pêche à la truite, on a ensemencé, ou encore pour la plongée sous-marine. Vous voyez en hiver les projets d'aménagement. C'est une nouvelle préoccupation depuis les années 2000. Les urbanistes commencent à penser que le paysage a une valeur économique. Les nouvelles préoccupations, c'est est-ce qu'on doit faire des plans de mise en valeur? Est-ce qu'on doit aménager des belvédères sur certains de ces terrils, comme on a vu hier? Est-ce qu'on pourrait mieux contrôler l'affichage? Parce que beaucoup d'affichages en bordure de la route principale qui correspond à la pente ophiolithique où on retrouve les mines, toutes les mines d'amiante qui ont été exploitées. sur 48 kilomètres. Est-ce qu'on doit passer de plus en plus limiter la hauteur des édifices en périphérie de ces collines grises? Puis vous voyez, c'est un paysage d'hiver, évidemment, ça prend un autre charme l'hiver, nos terrils gris. Puis j'ai pensé aussi une analogie avec les dunes de sable qu'on retrouve, les dunes de sable naturelles comme dans le bassin d'Arcachon. Puis on pourrait peut-être escalader prochainement une dune de sable de mine, pourquoi pas. Puis, c'est un projet de 2 millions. On évalue, une firme a évalué à 2 millions le projet d'aménager, de valoriser les halles qui sont des repères importants, des repères identitaires de notre paysage. On identifie trois secteurs. Il faut comprendre qu'on est à 1 heure de Québec, 2h30 de Montréal. Donc, il y a trois secteurs d'entrée principaux. On voit un petit peu sur la mine, on voit le relief des terrils et des fosses. Donc, ici, il n'est pas question de renflouer ces fosses-là. On a pensé à faire des projets de land art. Par contre, l'étude de la firme a une faiblesse. On n'a pas évalué en termes de sécurité qu'est-ce que ça prenait, parce qu'on ne peut pas faire du land art partout. Puis le projet qui a été évalué par une firme de marketing estimait le projet à 50 millions. Donc, encore une fois, on voit tous les secteurs, le musée par rapport au panorama minier, les mines situées, l'ancien quartier Mitchell qui est coupé du reste de la ville. Puis, on avait éventué un peu 10 composantes dans ce projet de 50 millions, dont le land art. On a pensé un téléphérique funiculaire descendre dans un puits minier souterrain. On a pensé un pavillon d'exploration et de valorisation en complément au musée. Utiliser un convoyeur pour sur le site même, faire un amphithéâtre dans un cratère minier. Bref, on a mis beaucoup de... Le projet, malheureusement, a insisté beaucoup sur l'aspect plus Disneyland, de la mise en valeur du site, plutôt que sur l'aspect patrimonial ou sur l'histoire de la communauté. Donc, on voit le lien avec le musée et les autres sites, les éléments proposés rapidement. Puis on parlait même d'un camping dans l'ancien quartier Saint-Maurice plutôt qu'une mise en valeur. Donc, il y a un peu de projet, de projet plus ou moins tout à fait, en tous les cas, contestable. On voit ici la mine, l'ancienne mine La Belle au centre-ville, la piste cyclable. Un peu plus bas, on retrouvait la rue Smith que je vous ai montré tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est une piste cyclable. On a végétalisé également la piste. Projet de téléphérique au-dessus du puits. Évidemment, j'ai fait une analogie avec l'histoire. Autrefois, on avait des terriques pour remonter le minerai à la surface, qui étaient employés également par les mineurs. Puis, le contexte économique. Présentement, ce projet-là était évalué trop coûteux. Puis, l'étude actuelle n'était pas recevable au niveau des programmes. Puis, on n'avait pas tenu compte assez des contraintes de sécurité. Puis on a tenu compte plus d'une mise en marché. Rapidement, je vais vous parler...
Oui, il faut conclure, pour si conclure, on peut avoir un peu de débat, François.
Sur le projet actuel du musée, c'est plus de favoriser par étape le projet, sauvegarder certains bâtiments, comme le bâtiment où se faisait la séparation manuelle de l'amiante, sauvegarder un des chevalements et la salle des pendus qui est ici et la salle du treuil à la mine King qui sont des éléments importants, des éléments signaux au centre-ville. Donc, on a un peu revoir ce projet-là, convaincre la municipalité, les propriétaires vraiment d'y aller par étapes, puis essayer d'embarquer, greffer l'entreprise privée au projet, puis investir, associer les gouvernements au projet. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous quitte sur une image de chevalement abandonné. Merci.
Merci beaucoup, François 5 mars.